L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 6 avril 1909. Il est 10 heures du matin. Ah, il fait froid, très froid. Terriblement froid. Le thermomètre indique moins 50 degrés Celsius. Le cognac a gelé. Le blizzard rend la visibilité quasi nulle. Les traîneaux sont arrêtés. Les chiens semblent complètement vidés. On distingue à peine les 6 hommes qui semblent se congratuler au milieu de la banquise. À ce moment précis, ils se trouvent au point le plus au nord de notre planète. Aucun signe, aucun panneau n'indique l'endroit où ils sont. Et pour cause, personne. Personne n'est encore arrivé jusque-là. Ce point, ce pôle nord, n'a rien de particulier. C'est juste de la banquise à perte de vue, partout. Pourtant, se trouver à cet endroit du globe fait de ce 6 avril 1909 le plus beau jour de la vie de Robert Peary. Le pôle nord, c'est son obsession depuis toujours, l'histoire de sa vie. Le Graal absolu. Le pôle nord, c'est son Everest à lui. 90 degrés nord, il y est enfin. Il est 10 heures du matin, l'heure H de mon histoire. Au début du XXe siècle, l'entièreté du globe est déjà cartographiée, sauf l'extrême nord et l'extrême sud. Les deux pôles sont encore à découvrir. Et pour Robert Peary, atteindre le pôle nord est un rêve d'enfant. Plus encore, c'est l'aboutissement de toute une vie. Il s'est entraîné des années avec ce seul objectif en tête. Il a multiplié les tentatives pour autant d'échecs. Peary est l'homme de l'Arctique. Dès 1886, il séjourne régulièrement au Groenland, enchaînant les expéditions. Dans le but de financer son ambition, il fonde le Peary Arctic Club. Pour mobiliser les foules autour de ses projets, il ramène même des Esquimaux, autrement dit les Inuits, peuple vivant dans les régions arctiques. Il exhibera d'ailleurs à New York une famille de 5 Esquimaux. Logés comme des animaux de foire dans les caves humides du musée d'histoire naturelle. Ces derniers vont rapidement succomber à la tuberculose, à l'exception de Minik, un petit enfant. Dès 1891, Peary explore l'intérieur du Groenland. Il établit la preuve de son insularité. Il vit même avec les Esquimaux. Sa fille, née sous ses latitudes, reçoit le prénom de Aninito, ce qui signifie « bébé des neiges ». Il ne rentre aux États-Unis que pour préparer le raid suivant. En 1895, il quitte les terres du Groenland et progresse sur la calotte glaciaire. En 1902, il bat le record de l'Américain arrivé le plus au nord, à 84 degrés 17 minutes de latitude. 4 ans plus tard, il récidive, en plaçant la barre à 87 degrés 6 minutes. L'objectif final est bien entendu fixé à 90 degrés. Cet homme, recordman des expéditions polaires, est obnubilé par l'idée de planter le drapeau étoilé à l'endroit où le moindre souffle vient du sud. Rien, rien ne peut arrêter celui qui se considère comme une machine à gagner le pôle. Mais vaincre le pôle n'est pas une mince affaire. Il le sait mieux que quiconque. Lui qui a abandonné à l'Arctique 9 orteils gelés en 1899. Après 7 tentatives infructueuses, Peary sent que cette fois ce sera la bonne. Il est fin prêt pour ce raid ultime qui le verra enfin atteindre son but. Son moment est arrivé. Il a rendez-vous avec l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Le 6 juillet 1908, par une journée caniculaire, une nouvelle expédition quitte New York à bord du Theodore Roosevelt. Objectif ? l'île d'Elsmer, à l'ouest du Groenland. Début septembre, l'expédition fait étape au Cap Sheridan, au nord du Canada. La fin de l'été et l'automne se passent en chasse et en préparatifs. Les Esquimaux abattent le gibier, tannent les peaux et coupent les vêtements de fourrure. Puis, les traîneaux s'élancent jusqu'au Cap Columbia, camp de base et dernière étape sur la terre ferme. Le Cap Columbia, c'est le point le plus au nord de l'île d'Elsmer. Face à Robert Peary et son équipe, 750 km de banquise, de glaçons aigus, de crevasses d'eau imprévisibles, même pour un pied expérimenté, pour atteindre le point ultime. Il faut encore attendre le printemps polaire, soit après février, quand finit la nuit, et avant juin, quand commence la débâcle des glaces. L'expédition se met donc en route le 1er mars 1909. Elle est divisée en 6 échelons d'éclaireurs, à 5 jours d'intervalle. Peary fermant la marche. Pour cet importantissime voyage, Peary s'est entouré d'une solide équipe. Docteurs, scientifiques et autres spécialistes américains l'accompagnent. Pas sûr pour autant qu'ils resteront longtemps à ses côtés. On l'a dit, il va falloir affronter des conditions dantesques. Et tous ces hommes ne sont pas préparés comme Peary, un ancien de l'US Navy. L'expédition compte aussi de nombreux Inuits et des chiens en assez grande quantité pour s'autoriser 60% de pertes. Au moment du départ, le commandant Peary proclame « Je reviendrai vainqueur ou je ne reviendrai pas ». Peary est âgé de 52 ans quand, avec 24 hommes, 133 chiens et 15 traîneaux, il quitte l'île d'Elsmer pour entreprendre son ultime tentative d'atteindre ce pôle tant convoité depuis des siècles. Pour avancer sur la banquise, faire face aux obstacles et vaincre les difficiles reliefs, Peary a créé un système qui n'appartient qu'à lui. Dans le système Peary, trois groupes sont constitués. Le premier a la charge d'ouvrir la voie au suivant, plus chargé en vivres et en matériel. Il taille le passage à coups de piolets et de pioches en s'attaquant aux fameux hummocks, ces énormes plaques de glace qui s'accumulent sur la banquise. Tout cela à travers un relief qui alterne les arêtes de 15 mètres. Un deuxième groupe passe ensuite pour améliorer la route. Enfin vient le tour de Peary et des hommes qu'il a choisis pour rester à ses côtés, ainsi que les traîneaux les plus chargés. Certains jours, le temps clément offre des possibilités de progression inespérées. Mais souvent, l'avancée est contrariée par les vents, par la neige, quand des zones d'eau libre n'empêchent pas tout simplement le passage des traîneaux. Les équipes relais évoluent lentement dans cet interminable paysage de glace et de tourbillons de neige. Le grondement des brisures menace. Les obstacles se multiplient, plus redoutables chaque jour. Une à une, les colonnes abandonnent, démoralisées. Et peu à peu, l'effectif diminue. Des accidents obligent certains à abandonner, d'autres repartent de guerre lasse. Et puis surtout, à l'approche du but, la logistique doit s'alléger. Un mois après son départ, soit le 30 mars 1909, le dernier groupe de soutien fait demi-tour. À 240 km de l'arrivée, Peary renvoie le capitaine Bartlett, qui est aussi le capitaine du bateau, le Theodore Roosevelt, mais qui est surtout le dernier membre blanc de l'expédition. À part Robert Peary lui-même, bien entendu. Les raisons de ce renvoi sont pratiques, mais aussi tactiques. Le chef de l'expédition tient à être le seul à obtenir le statut de découvreur que ne pourront lui ravir ses autres accompagnateurs, notamment les Esquimaux. Peury choisit donc de franchir cette dernière étape, accompagné de 4 Esquimaux et de Matthew Henson, son dévoué serviteur noir qui, depuis 25 ans, participe à toutes les expéditions. Ce qui fait en tout 6 hommes. Jusqu'à la dernière minute, le dit Bartlett a espéré de toutes ses forces que Peury l'emmène avec lui. Mais non, pas question pour Peury de partager cette gloire qui lui tend les bras. Ce renvoi est une immense déception pour le capitaine Bartlett, qui ne s'en remettra pas. Sa place dans les livres d'histoire n'est évidemment pas celle qu'il espérait. Peury veut être le seul homme blanc à atteindre le pôle. Il parcourt les derniers 240 km restants en 4 jours, soit au rythme de 62 km par jour, ce qui est énorme. Le 6 avril 1909, il est 10h du matin, lorsque le groupe atteint son but, le pôle Nord. Seulement voilà, au début du XXe siècle, pas de satellite, et encore moins de GPS, ou de tout autre moyen de géolocalisation. Robert Peury est-il précisément au pôle Nord, c'est-à-dire à 90 degrés de latitude Nord? Ses calculs lui disent sans doute que oui, mais rien n'est moins sûr.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans leur H, je vous raconte la conquête d'un endroit mythique, tant convoité. Nous sommes le 6 avril 1909, date à laquelle le commandant Robert Peury atteint le pôle Nord, accompagné de 4 Inuits et de son fidèle serviteur noir, Matthew Henson. Pendant la trentaine d'heures que Robert Peury passe au pôle Nord, entre le 6 avril et le 7 avril 1909, le ciel est plutôt dégagé. Le thermomètre indique jusqu'à moins 34 degrés Celsius. Enfin parvenu à sa destination, l'explorateur prend le temps d'écrire une carte postale à son épouse. Et voici ses mots. « J'ai fini par y arriver. J'y ai passé une journée. D'ici une heure, je repars en direction de la maison. » Bisous aux gamins. Peury prépare aussi des messages en espérant qu'ils restent gravés dans la mémoire collective pour l'éternité, un peu comme le fera, entre autres, un certain Neil Armstrong, quelques 60 années plus tard. Il écrit « Je suis assis sur le toit du monde » ou encore « Enfin, le pôle est à moi ». Bizarre. N'importe qui d'autre aurait écrit « Le pôle est à nous, non ?» On l'a dit. Peury n'était pas tout seul. Et il écrit aussi cette phrase absolument ahurissante. Il n'y a plus d'autre conquête à faire par l'homme. Il oublie tout simplement que personne n'a encore atteint le pôle sud. Ensuite, Peury plante 5 drapeaux. Le drapeau des États-Unis, bien sûr, puis le drapeau de l'US Navy, dont il est officier, mais aussi le drapeau de sa fraternité d'étudiants, le drapeau de la Croix-Rouge et enfin le drapeau de la paix. Il se photographie avec la petite équipe avec laquelle il a accompli l'exploit. 5 hommes, Matthew Henson, homme de couleur, Uta, Egingwa, Siglo et Ukea, Eskimo, 5 traîneaux et 38 chiens, écrit-il dans son journal. Puis l'explorateur s'attelle à une série d'observations scientifiques et découvertes plutôt inattendues pour l'époque, le premier sondage opéré dans l'épaisse couche de glace révèle que le sommet du monde n'est pas sur Terre, mais sur mer. 2 jours plus tard, Peury fait demi-tour pour retourner vers le sud. Le 27 avril, il revient à bord du Theodore Roosevelt, vainqueur, triomphal. Il a conquis son pôle, selon sa propre expression. Robert Peury s'attend donc à être officiellement reconnu comme le premier homme ayant atteint le pôle Nord. Et là, terrible coup de théâtre. 5 jours plus tôt, on a vu arriver 3 hommes dans un état épouvantable, tirant un traîneau et son chien. Deux Esquimaux et un Blanc. L'homme blanc a déclaré « Je suis le docteur Frédéric Cook. Je reviens du pôle Nord que j'ai atteint en avril 1908. » Frédéric Cook affirme avoir réalisé cet exploit le 21 avril 1908, soit un an avant Peary. Voilà que Peary aurait été coiffé au poteau. Voilà qu'on lui vole son pôle Nord. C'est le début d'une controverse sans fin et toujours pas terminée aujourd'hui. Mais alors, que s'est-il passé ? Le docteur Frédéric Cook, que Peary connaît très bien et vis-à-vis duquel il a une excellente opinion, organise dès 1908 une expédition pour atteindre le pôle Nord. Le 18 février 1908, après avoir hiverné quelque part dans le nord-ouest du Groenland, il quitte l'île d'Elsemer avec 10 Esquimaux, 11 traîneaux, 105 chiens. Quelques jours plus tard, il renvoie au fur et à mesure la majorité des Esquimaux. Pour le plus grand trajet qui lui reste jusqu'au pôle, il ne garde que 3 traîneaux, 26 chiens et 2 Esquimaux. Le 21 avril 1908, Cook arrive au pôle Nord, puis il fait demi-tour et redescend vers le sud. Mais il est pris par la dérive des glaces qui se déplace vers l'ouest. Au lieu de revenir à son point de départ, il dérive de plus de 200 km pour se retrouver à 250 km au sud-ouest du point qu'il voulait atteindre. Cook est alors obligé d'abandonner ses chiens car le voilà coincé sur une île entièrement entourée d'eau libre. Il continue avec une embarcation qu'il fabrique sur place avec l'aide de ses 2 Esquimaux. En septembre 1908, il arrive sur une autre île, très loin, très très loin de son point de départ. Les 3 hommes hivernent alors dans des conditions réellement épouvantables. Ils construisent une hutte inuite avec des pierres, des os de baleine, des mottes d'herbe et de la terre. Une hutte qui offre un espace intérieur de 2 mètres sur 2,40 mètres. Ils n'ont quasi pas d'outils, aucune arme excepté leur couteau. Ils se fabriquent des armes avec des os et des pierres et chassent, comme au temps de la préhistoire. Ils survivent ainsi à 3 dans le froid, les températures extérieures descendant régulièrement à moins 50 degrés. Une fois le printemps 1909 arrivé, le trio se remet en route à travers l'île d'Elsmer pour se retrouver à l'endroit où 5 jours plus tard arrive le Roosevelt, avec Robert Peary à son bord. Drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? Cook s'adresse alors à ceux qui se trouvent sur le navire. Il commence par dire qui il est. Puis il leur demande d'accepter de prendre à bord du navire la caisse qu'il a sur son traîneau et qui contient tous ses instruments, ses notes et l'ensemble de ses calculs pour que tout soit ramené aux États-Unis. La caisse est bien embarquée, à la grande satisfaction de Cook, qui continue sa route vers le sud. Lorsque Peary apprend cela, il fait débarquer la caisse illico. Celle-ci ne sera jamais retrouvée. Non, pas question que ce Cook puisse lui voler la vedette et sa gloire naissante. Un comportement tout simplement inadmissible de la part de Peary. Sans les calculs de Cook, impossible d'établir s'il est bien arrivé au pôle. Et ce sera l'une des conclusions de la commission danoise à même de valider les dires de nos aventuriers. Cette commission conclut donc qu'il n'est pas prouvé que Cook a atteint le pôle. Mais elle ajoute qu'il n'est pas prouvé non plus qu'il ne l'ait pas atteint. On a donc affaire à une controverse pour le moins violente, essentiellement de la part de Peary, qui va traiter Cook de menteur, d'escroc et de tous les noms d'oiseaux possibles. Une véritable bataille de l'information s'engage alors. On voit Peuristes et Cookistes s'affronter pendant des dizaines d'années, et pour tout dire, jusqu'à aujourd'hui. Et comme toujours, chaque camp a de bonnes raisons pour faire l'apologie de son vainqueur. Si Cook ne peut pas vraiment prouver son parcours, qu'en est-il de Peary ? Au fil des ans, les pour et les contre n'ont cessé de s'affronter. Voici les arguments en faveur de Peary. L'explorateur américain Robert Peary n'a ni menti ni commis d'erreur de calcul en affirmant avoir atteint le pôle Nord en 1909, contrairement à ce qu'avancent depuis des années d'autres spécialistes du monde arctique. A déclaré récemment un organisme privé dont la recherche est parrainée par la prestigieuse National Geographic Society. Au terme d'un rapport de 230 pages, la Fondation de la Navigation écrit ceci. Les analyses des données fournies par Peary nous ont convaincus que l'ultime campement de l'expédition, nommé camp Jésup, n'était pas à plus de 8 km du pôle Nord. Ce travail me semble inattaquable. À moins que des éléments nouveaux ne surviennent, je considère qu'il clôt une controverse historique et qu'il rend justice à un grand explorateur, a dit dans une conférence de presse Gilbert Grosvenor, président de la National Geographic Society. D'autre part, les informations de Peary sur la profondeur de l'eau correspondent aux données les plus précises de la science moderne sur les fonds de l'océan Arctique. Bien. Voici maintenant les arguments en défaveur de Peary. L'historien américain Dennis Rawlins a consulté les notes d'expédition de Peary, tenues secrètes jusqu'à la fin des années 80, pour découvrir l'abandon forcé de l'explorateur à 100 km du pôle Nord. Cette découverte mettra peut-être un terme définitif à une des plus importantes controverses géographiques de ce siècle. D'après des relevés très compliqués à déchiffrer, Peary connaissait sa position au moment où il prit la pénible décision de capituler. Encore loin du pôle, il pouvait se vanter cependant d'avoir été plus loin au nord que quiconque auparavant. Conscient que sa dernière chance de réaliser son rêve s'envolait, il franchit le pas entre le rêve et la réalité et proclama au monde l'exploit qui n'existait que dans son imagination. À l'abri de l'humiliation insupportable, il mourut 10 ans plus tard dans sa gloire. Oui, mais que conclure de tout ceci ? Robert Peary est entré dans les livres d'histoire comme le premier explorateur à avoir atteint le pôle Nord. Cela s'est passé dans le blizzard, le 6 avril 1909. Jamais aucun autre être humain n'est allé aussi loin. Peary a sacrifié ses chiens, ses hommes et son âme pour atteindre cet objectif au bout de 20 ans d'efforts et de 8 expéditions. Quant à Frédéric Cook, il s'est montré visionnaire en montant une expédition ultra-légère de 3 hommes, dont 2 Inuits, avec 2 traîneaux de 400 kilos et 26 chiens. Il déclare avoir atteint le pôle le 21 avril 1908. L'ensemble de ces données récoltées ont été volontairement perdues par son grand rival, ce qui rend impossible de vérifier son parcours jusqu'au pôle Nord. Oui, mais connaîtrons-nous un jour le fin mot de l'histoire ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Cela dit, admettons que la vérité soit du côté de Peary. Nous l'avons vu, d'après lui, il aurait atteint son but ultime, accompagné de 5 hommes, 4 Inuits, et celui considéré comme son homme de main, son serviteur, voire son domestique, Matthew Henson. Matthew Henson est un explorateur afro-américain, né juste après la guerre de sécession. Il s'engage à 13 ans dans diverses expéditions en bateau et mène une vie d'aventurier. Dans l'une de ces expéditions, il a la chance de tomber sur un capitaine qui lui apprend à lire et à écrire. Il rencontre ensuite Robert Peary et l'accompagne dans de nombreux voyages en direction du pôle Nord. Peu après son exploit, Peary sort un livre à sa propre gloire, The North Pole, édité en 1910. Un ouvrage qui regorge de photos dans la neige et de facsimilés de ses notes. Le même Peary pousse alors son plus fidèle compagnon de route à lui aussi publier son témoignage. Il le fait surtout car il est en pleine tourmente avec son ex-ami Frédéric Cook. Et ce que va raconter Matthew Henson peut donner plus de poids à ce que Peary soutient contre vents et marées. C'est le moment où beaucoup de relais dans l'opinion américaine et internationale prennent le parti de Cook. C'est ainsi que paraît en 1912, aux États-Unis, le journal d'un explorateur noir au pôle Nord. Le contenu est effectivement à la gloire de Peary, initiateur et commandant de l'expédition. Mais surtout, il met en valeur ceux qui se retrouvent habituellement à l'arrière-plan. Henson écrit « Aux côtés des Esquimaux, les chiens sont les sujets les plus intéressants des régions arctiques. L'hommage aux Inuits, dont il connaît la langue, si bien qu'il sert d'interprète à Peary, est fréquent. Lorsqu'il raconte l'arrivée au pôle, il prend le temps de dresser le portrait des quatre Inuits, louant leur esprit ouvert et honnête. Henson ne voit pas les mêmes choses que Peary. Il n'hésite d'ailleurs pas à séjourner avec les Inuits au-delà des expéditions. Il se lie aussi à une femme, Akatingwa, avec laquelle il a un enfant, en 1906. Lors de la fameuse expédition dont nous parlons, nous avons vu que Peary met en œuvre sa propre méthode pour progresser sur la banquise. L'expédition est scindée en trois groupes. Le premier devant tracer la route, transportant logiquement le moins de paquetage. Dans son ouvrage, Matthew Henson raconte pourtant la chose suivante. Dès le premier jour, comme équipe pionnière, je portais le plein chargement d'un traîneau, soit l'équivalent de 250 kilos, tandis qu'aucune équipe à la tête n'eût apporté la moitié du chargement régulier. Autrement dit, Matthew Henson est devant pour tracer la route. Mais il transporte en plus un paquetage lourd et imposant. Mais pourquoi, me direz-vous ? Parce que c'est le choix de Peary. Matthew Henson est très investi dans sa mission. Il déploie une énergie colossale pour progresser dans des conditions plus que difficiles. Il est donc en première ligne. Cela permet ensuite à Robert Peary d'arriver sur une voie royale et d'être le premier à poser le pied sur le pôle Nord sans que personne ne puisse lui faire de l'ombre. Sauf que ça, c'est pour la photo. Dans la réalité, en tête de l'expédition le jour J, Henson est très probablement le véritable découvreur du pôle, à 45 minutes près. C'est ce que l'on décode du témoignage de Henson qui reste prudent. Nous sommes en pleine époque ségrégationniste, alors difficile pour l'homme noir de dépasser le blanc. Peary, le chef de l'expédition, tient à être le seul à obtenir le statut de découvreur. Ce ne sont pas les Esquimaux qui lui font de l'ombre. Il écrit d'ailleurs ceci à propos des Inuits. Ils se réjouissent de notre succès de façon enfantine. Bien évidemment, ils ne réalisent pas pleinement son importance mondiale. Ce ne sera pas non plus celui qu'il considère comme son serviteur qui lui volera la vedette. À tel point qu'à l'arrivée au pôle, Peary prétexte une douleur aux yeux afin de ne pas serrer la main que lui tend son accompagnateur pour partager symboliquement la victoire. Sur les photos de 1909, Henson montre un visage souriant, celui du gars sûr avec lequel on est prêt à risquer sa vie. Avec sa solennité toute militaire, Peary, lui, semble faire la gueule. Mais c'est bien sur la tête de Peary que pleuvent les récompenses. Il obtient le grade de contre-amiral, qui lui vaut une pension de 8 000 $ par an, soit 208 000 $ actuels. Des contrats juteux lui permettent de relater son périple dans le Hamptons Magazine et, bien sûr, dans son livre. Au retour du pôle, Peary accède à une prestigieuse fin de carrière. Henson, lui, devient gardien de parking et meurt en 1955. La reconnaissance de ses exploits viendra à titre posthume. En 1988, il est inhumé au cimetière militaire national de Washington. Il reçoit la prestigieuse médaille Hubbard en 2000. Conclusion de tout ceci, le découvreur du pôle Nord n'est sans doute pas Cook. C'est peut-être bien Peary, mais c'est probablement Henson. un quatrième homme a failli se mêler à cette grande aventure, le Norvégien Roald Amundsen. Comme Robert Peary, Amundsen ne rêve que d'une chose, être le premier à atteindre ce fameux pôle Nord. Pour y arriver, il est prêt à sacrifier famille, argent et amour. Alors qu'il est dans les préparatifs d'un départ imminent, le Norvégien apprend, via un journal, qu'un certain Frédéric Cook aurait atteint le pôle Nord. Ses amis tentent de le rassurer en disant qu'on n'a à ce stade aucune preuve de l'exploit de Cook, hormis ses propres dires. Mais pour Amundsen, l'expédition qui se prépare n'a plus de raison d'être. Et il déclare ceci. L'expédition est morte. Même s'il ne l'a pas vraiment fait, du moment que quelqu'un s'en réclame, ça n'intéressera plus les foules. Son expédition vers le pôle Nord est annulée sur le champ. On lui a volé son pôle Nord. Qu'à cela ne tienne, le seul défi qui reste, le seul exploit à la hauteur désormais, ne peut être que le pôle Sud, bien sûr. Facile à dire, me direz-vous. Mais Roald Amundsen est de la race de ceux pour qui aucun défi n'est trop grand. Il est bien décidé à entrer, lui aussi, dans l'histoire des pôles par la grande porte. Mais n'allons pas trop vite.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte la conquête des territoires convoités par les explorateurs. Le pôle Nord a rendu son verdict. Deux hommes prétendent y avoir mis le pied et s'en disputent la primeur. Un troisième explorateur du froid, le Norvégien Roald Amundsen, a failli se lancer dans l'aventure, mais trop tard. Il n'a sans doute pas dit son dernier mot, car il lui reste le pôle Sud. Revenons un instant à notre ami Peary. Arrivé au pôle Nord, ce dernier a fait, rappelez-vous, une déclaration plutôt étonnante lorsqu'il a dit « Il n'y a plus d'autre conquête à faire par l'homme ». Le pôle Sud attendait pourtant toujours son découvreur. Si le pôle Nord se trouve sur une mer recouverte d'une fine banquise d'un à quatre mètres, le pôle Sud a les pieds bien sur terre, enfin sur glace. Situé sur le continent Antarctique, il se trouve à une altitude de 2835 mètres. Bref, si la conquête du pôle Nord a vu s'affronter deux aventuriers aussi méritants l'un que l'autre, mais dont la postérité retiendra une querelle très stérile, le pôle Sud aura, lui aussi, ses deux héros. Le second acte de ce récit les verra s'affronter à distance. Et cette fois, il n'y aura aucune contestation sur le nom du vainqueur. À ma gauche, le Britannique Scott. À ma droite, le Norvégien Amundsen. Ah oui, celui-là même qui, sa vie durant, n'a rêvé que du pôle Nord. Les exploits de Cook et de Peary ont brisé son rêve, lui qui voulait être le premier sur le toit du monde. Il décide donc, logiquement, de viser le seul exploit qui peut avoir autant de retentissement, être le premier au pôle Sud. Amundsen choisit de garder son expédition secrète car le financement de celle-ci est lié à l'étude des courants océaniques au pôle Nord. Mais s'équiper pour le pôle Sud est très différent. Lors de sa préparation, les questions sont effectivement nombreuses. On lui demande pourquoi emporter de quoi remonter un chalet sur la banquise dérivante de l'océan Arctique, ce qui n'a effectivement pas de sens. Par contre, sur le continent Antarctique, ça lui permettra d'avoir une base. Rappelons que le pôle Nord est sur l'eau, alors que le pôle Sud est bien sur un continent stable, avec des montagnes culminant à 4897 mètres d'altitude. Il est couvert d'une calotte de glace, d'une épaisseur moyenne de 1700 mètres. On lui demande aussi pourquoi emmener 90 chiens plutôt que de les prendre en Alaska sur sa route vers le Grand Nord. La raison est qu'il n'y a pas d'habitants en Antarctique, pas d'Inuits et encore moins de chiens de traîneau. La technique prônée par Amundsen consiste à prendre beaucoup de chiens dont il aura de moins en moins besoin au fur et à mesure que les fardeaux s'allègent, avec l'idée de sacrifier les chiens pour se nourrir et nourrir les chiens qui restent. Lorsqu'il déclare le changement de cap à son équipage, Roald Amundsen met en comparaison les moyens techniques et l'énorme expédition mise sur pied par les Britanniques au même moment. Ainsi, il espère motiver son équipe. Les Britanniques entendent annexer l'Antarctique à leur empire colonial. Robert Scott a pris la mer avec 65 hommes, des traîneaux à moteur et des chevaux. Des moyens qui, face aux conditions extrêmes rencontrées sur place, s'avèrent finalement très dérisoires. En janvier 1911, Robert Falcon Scott débarque en effet au Cap Evans, en Antarctique, avec 31 hommes, 33 chiens de traîneau, 19 poneys et une cabane préfabriquée en bois qui fait office de base. Scott entame alors une course contre la montre, car il est au courant qu'un certain Roald Amundsen essaie de le prendre de court par le sud. Scott tient néanmoins à réaliser des expériences de météorologie, magnétisme, glaciologie, biologie marine et cartographie qu'il a prévues. Sa course vers le pôle sud s'effectue non sans mal. Les traîneaux motorisés cassent, les poneys meurent, mais Scott et quatre de ses compagnons poursuivent la route et parviennent au pôle sud le 17 janvier 1912. Ils arrivent enfin au but, mais une mauvaise surprise les attend. Quel n'est pas leur désarroi lorsqu'ils découvrent la petite tente verte d'Amundsen, arrivée sur place un mois plus tôt. Effectivement, le 14 décembre 1911, Amundsen et trois de ses compagnons, chacun attelé de 13 chiens et tirant 400 kilos de vivres et de matériel, parviennent les premiers au pôle sud. 99 jours ont suffi à l'expédition pour gagner le pôle et en revenir. Lorsqu'ils posent le pied au pôle sud pour la première fois, sortant vainqueurs de la course à la découverte de ce continent glacé, Roald Amundsen écrit dans son carnet de bord ceci. Jamais un homme ne se sera trouvé si diamétralement opposé à l'endroit où il souhaite réellement être. Lui qui a toujours rêvé du pôle Nord, le voilà, ironie de l'histoire, le premier au pôle Sud. Quant à Scott, après avoir atteint le pôle Sud 33 jours après Amundsen, les choses ne vont vraiment pas bien se passer pour lui et ses compagnons de route. Ils sont pris dans une tempête meurtrière à leur retour. Ils sont 5 à affronter des conditions climatiques épouvantables. Le blizzard ne leur laisse aucun répit. Ils n'avancent pas et sont bloqués au bout de ce monde de glace. Ils se réfugient dans leur tente en espérant une éclaircie. Cette éclaircie ne viendra jamais. Ils sont perdus, à bout de force. Alors, ils se blottissent les uns contre les autres pour tenter de se réchauffer, mais rien n'y fait. Le froid extrême et la faim auront raison de ces 5 hommes qui ne reverront jamais leur terre natale. Ce lieu mythique, cette Antarctique, qui devait être synonyme de gloire éternelle, sera leur tombeau. Étonnamment, c'est bien l'aventure vécue par Scott et ses hommes qui capte l'attention du monde en lieu et place de l'exploit réalisé par Amundsen. Alors que la traversée effectuée par ce dernier relève plutôt de l'exploit physique, l'expédition menée par Scott poursuit un objectif scientifique admiré par le public. Et comme un clin d'œil, Amundsen a laissé dans sa tente une lettre adressé au roi Haakon de Norvège. Lettre que Scott a effectivement trouvée et que l'on retrouve sur le cadavre gelé de l'infortuné officier de la Royal Navy. Quelque temps plus tard, la Société royale de géographie britannique invite Amundsen et rend un hommage plutôt étonnant à l'explorateur norvégien. Un hommage teinté de sarcasme et saupoudré d'un humour typiquement anglais qui ne peut toutefois pas masquer l'immense déception de l'échec britannique face à la réussite norvégienne. Le président de la Société royale de géographie britannique déclare ceci. Grâce au carnet de Nord de feu de capitaine Scott, nous savons que ce dernier a bien découvert une lettre destinée au roi de Norvège et que Roald Amundsen comptait sur le capitaine Scott pour la remettre en son nom, prenant ainsi nos officiers de la couronne pour de simples postiers. Notre invité a eu la chance de bénéficier durant tout son périple d'une météo clémente, d'une bonne santé et d'un mode de transport qui ne tombe jamais en panne. Toutes nos félicitations. Le capitaine Scott, un de nos plus grands héros, capable de tirer seul son traîneau, a peut-être perdu une bataille disproportionnée contre le froid et la faim, mais celui-ci a refusé de céder à la barbarie et s'est comporté en gentleman jusqu'à la toute fin. Je vous invite par conséquent à porter un toast au véritable héros de cette expédition, les chiens. Eh ben oui. Rappelez-vous la technique d'Amundsen. Manger les chiens au fur et à mesure pour nourrir les hommes et les autres chiens les plus valides. Une intervention qu'Amundsen a moyennement appréciée, cela va sans dire. Il interpelle d'ailleurs la Société royale de géographie pour exprimer le fait qu'il se sente méprisé après que le président eût plaisanté en demandant 3 hurrahs pour les chiens. Plus tard, il fait part de sa relation plutôt houleuse avec les Anglais dans son livre « Ma vie d'explorateur polaire ». Il écrit ceci. « Je sais d'expérience que nos amis anglais sont de manière générale issus d'une race de très mauvais perdants. Si j'avais un seul vœu à formuler, ce serait que Robert Scott ait pu survivre. Il aurait été le numéro 2, le perdant de l'histoire. Au lieu de cela, on a fait de lui un martyr et moi, le vilain qui l'a battu. J'ai beau avoir gagné la course, on a fait de moi le méchant alors que j'ai toujours respecté le code d'honneur à la lettre. J'ai si bien préparé le pôle sud que ça a semblé facile. C'est ma plus grosse erreur. » Le 26 mai 1928, le journal Aftenposten d'Oslo organise une grande réception dans la capitale norvégienne. À cette occasion, Amundsen est déclaré comme le plus grand explorateur polaire de toute l'histoire. Il est le premier à avoir passé un hiver en Antarctique, le premier au pôle sud. Le premier à faire intégralement le tour de l'océan Arctique en bateau. Le premier à avoir franchi les 2 passages. Celui de Nord-Ouest et celui de Nord-Est, qui permettent de passer de l'océan Atlantique au Pacifique via l'océan Arctique. Le premier a survolé la calotte glaciaire entre le pôle Nord et l'Alaska, faisant de lui le premier homme à avoir atteint les 2 pôles. Car oui. Et ce dernier point n'est pas à classer parmi les grands exploits d'Amundsen. Il survole effectivement le pôle Nord à bord d'un dirigeable piloté par l'Italien Nobile le 12 mai 1926. Une manière de boucler la boucle en quelque sorte, même si, pour l'explorateur, survoler ce point précis du globe ne souffre aucune comparaison avec ceux qui ont galéré des mois durant sur la banquise pour y arriver. Amundsen dira de ce petit voyage « Je me tenais debout près du hublot dans ce ballon dirigeable et, tout à coup, sans qu'on s'en rende compte, c'était fini, on l'avait atteint. Fin de l'histoire. Il n'y avait plus de terre vierge sur la carte. La légende d'Amundsen ne peut évidemment pas s'écrire sans une fin tragique, à la hauteur d'une vie hors norme. Le 18 juin 1928, il part en hydravion pour porter secours à une expédition menée par Nobile avec lequel il a survolé le pôle Nord en dirigeable. Il a aussi peut-être derrière la tête l'idée folle de survoler le pôle Nord en avion cette fois. Il ne sera pas le premier à y arriver. Il disparaît en mer, dans les eaux glacées de l'océan Arctique, au large de la Norvège. La banquise aura enseveli son dernier rêve. Pori, Amundsen, Cook, Scott, des hommes obstinés, courageux, têtus, capables de se transcender vers un objectif ultime pour aller là où personne n'est jamais allé. Leur Everest à eux se mesure en degrés de latitude de plus en plus élevés, vers ces destinations extrêmes, hostiles, quasi mythiques et surtout quasi inaccessibles. Des épopées dignes de la découverte d'une autre planète. Perry, Amundsen et quelques autres aventuriers du grand froid, des hommes prêts à tous les sacrifices, toutes les souffrances pour atteindre leur but et la gloire pour l'éternité, quel qu'en soit le prix. Voilà donc pour ce récit passionnant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Thierry de Soif.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.